Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. En France, en 2022, 5494 greffes d'organes ont été réalisées. Pour les greffes de tissus, ce chiffre monte à plus de 6000. Une reprise après les années difficiles du Covid qui a permis de faire redescendre la file d'attente des patients en attente de greffe à un peu moins de 11 000. L'histoire des greffes et des transplantations remonte au 19e siècle, lorsque pour la première fois un médecin suisse, Jacques Réverdin, tente de couvrir la surface d'une plaie avec de petits morceaux d'épiderme. Vous vous en doutez, ça n'a pas très bien marché et il faut attendre 1886 pour qu'une première greffe de cornée soit réalisée. Ces techniques ne font que s'améliorer et les greffes se développent tout au long du XXe siècle. En 52, la première greffe d'un rein vivant est tentée sur le jeune Marius Renard. L'adolescent décède 3 semaines plus tard, mais cet échec permet néanmoins au corps médical de comprendre le rôle des lymphocytes T dans le phénomène de rejet. Il permettra à Joseph Murray en 1954, devenu prix Nobel de médecine en 1990, de réussir la première greffe de rein à long terme. Dans les années 60, suivent les premières greffes hépatiques, puis en 67, la première greffe de cœur au monde, suivi en 68 de la première greffe cardiaque en Europe, réalisée à Paris par le célèbre professeur Cabrol. Pour les personnes diabétiques, il faut attendre 1976 pour que se développent les premières greffes pancréatiques. Et enfin, en juillet 2020, la Haute Autorité de Santé autorise la greffe d'îlot pancréatique, dit îlot de Langerhans. Une pratique moins invasive pour soigner les diabétiques dont nous allons vous parler aujourd'hui, puisque le CHU de Montpellier vient de réussir non pas sa première greffe d'îlot, mais la première greffe d'îlot isolée au par l'unité de thérapie cellulaire. Nos deux invités ont très fortement contribué à cette première. Oriane Villard est médecin au département endocrinologie diabétologie du CHU de Montpellier et Julia Sabatier est ingénieure hospitalière en charge de la partie technique de cette plateforme d'isolement. Alors bonjour à toutes les deux et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
J'avais dit que j'allais bafouiller, ça n'y a pas manqué. À mes côtés,
t'as vu.
À mes côtés pour réaliser cette émission, Aline Perriot.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, nous vous emmenons sur le plateau de géochimie analytique. Enfin, notre invitée des trois dernières minutes sera Caroline Blanvillain, vice-doyenne de la faculté d'éducation, qui nous présente l'exposition Récits d'horizon, encore visible pour quelques jours puisqu'elle se termine le 8 juin. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors j'ai égrené dans mon introduction un peu toutes les greffes qui avaient pu avoir lieu et on arrive sur cette greffe d'îlot pancréatique. Je pense que tous les auditeurs se sont dit mais qu'est-ce que c'est les îlots pancréatiques? Alors Oriane Villard, peut-être est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un îlot pancréatique, à quoi il sert?
Alors les îlots pancréatiques sont au niveau du pancréas, c'est en fait la fonction endocrine du pancréas, c'est-à-dire la fonction qui sert à sécréter des hormones. Il y a plusieurs hormones qui sont sécrétées par le pancréas, et notamment il y a l'insuline qui est sécrétée par ce qu'on appelle les cellules bêta. Les cellules bêta, en fait, elles sont dans des îlots, c'est un amas cellulaire, on appelle ça les îlots de Langerhans. Et donc en fait c'est une toute petite partie du pancréas, c'est 1% de la masse du pancréas, mais ça représente néanmoins une fonction vitale puisque c'est la sécrétion d'insuline, et l'insuline est la seule hormone qui permet au sucre de diminuer.
Et on en a beaucoup des îlots?
Des îlots de Langerhans, on estime à peu près à 1 million la masse cellulaire au sein d'un pancréas, et puis après ça dépend de la taille du patient bien sûr, de sa morphologie, il y a des différences entre les sexes et voilà.
Alors, j'avais une petite question en parlant de taille, mais pas celle des patients. Pour me faire une idée, c'est quoi la taille d'un pancréas? Je ne vois pas l'organe.
Alors, la taille d'un pancréas, ça pèse à peu près 100 grammes. Et sa taille, je dirais que ça fait à peu près 8 cm, 8-10 cm. Mais Julia pourra compléter.
Oui, peut-être un petit peu plus, autour de 10-15.
D'accord. Alors, cette greffe, elle a été réalisée, on l'a dit, sur un patient diabétique de type 1. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est que le diabète, quelles sont ses causes, quelles sont ses conséquences? Je crois qu'on a tous entendu parler de diabète de type 1 et 2, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence?
Donc, le diabète, en fait, c'est une hyperglycémie, donc c'est trop de sucre dans le sang. Et donc, c'est dû, en fait, à un défaut de la sécrétion d'insuline. Le diabète de type 1, en fait, vous avez une destruction des cellules bêta que je vous ai évoquée avant, donc une destruction complète où vous n'avez plus du tout de sécrétion d'insuline. C'est souvent, ça apparaît au jeune âge ou au cours de jusqu'à 30, 40 ans. Et donc là, c'est une carence complète en insuline et c'est ce qui caractérise le diabète de type 1. Ça correspond à peu près à 8% de toutes les formes de diabète. Et donc la grande forme qu'on connaît de diabète, c'est plutôt le diabète de type 2. Où là, c'est un phénomène qui est un petit peu différent. C'est en fait une insulinorésistance, c'est-à-dire que le patient, il faut plus de quantité d'insuline pour maîtriser sa régulation de la glycémie. Et puis, il a aussi des défauts d'insulinosécrétion. Et donc, c'est un diabète qui est plutôt d'étiologie multiple, puisque ça apparaît au cours de l'avancée en âge. Il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux. Et donc, c'est assez différent que le diabète de type 1, puisqu'on va pouvoir utiliser dans ce cas-là certains médicaments pour aller essayer de stimuler cette sécrétion d'insuline et ou bien diminuer cette résistance à l'insuline.
Alors, le patient qui a reçu cette première greffe, on l'a dit, il avait un diabète de type 1, mais un diabète instable. Alors, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, exactement. Donc, l'instabilité dans le diabète de type 1, c'est des formes qui sont rares de diabète, c'est des formes qui sont sévères où, en fait, nos traitements qu'on a actuellement, l'insuline qu'on peut proposer aux patients, ne permet pas d'avoir un équilibre glycémique satisfaisant. C'est des patients qui font des hypoglycémies sévères, c'est-à-dire des hypoglycémies où le patient perd connaissance et il a un risque en fait, d'accident. Par exemple, ce patient sur lequel il avait eu un accident de vélo au cours de cet été sur une hypoglycémie sévère, puisque nos traitements ne permettent pas un équilibre satisfaisant. Donc, c'est des formes qu'on dit rares de diabète, mais c'est les plus graves où nos patients ont une qualité de vie très altérée, puisque vous imaginez bien que l'absence de prédiction de l'hypoglycémie, une variabilité glycémique au cours de la journée a un impact majeur dans ses activités professionnelles, familiales et au quotidien finalement.
Alors on a appris dans votre communiqué que c'est la première greffe qui a été réalisée au CHU à partir d'îlots qui ont été isolés à l'unité de thérapie cellulaire. Julia Sabatier, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on s'y est pris pour isoler ces îlots? C'est quoi comme procédé?
Oui, alors l'isolement d'îlot pancréatique, c'est un procédé assez complexe et très long puisqu'il nécessite en général entre 8 et 10 heures de travail à 3 personnes. Donc ça prend beaucoup de temps. En fait, on reçoit l'organe entier. Donc la première chose, c'est quand même de vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie sur l'organe, quelle qu'elle soit. Ensuite, la première étape en fait, de ce processus, c'est la dissection. Donc il faut souvent essayer un petit peu de nettoyer l'organe, de la graisse qui l'entoure, sans toucher à la capsule pancréatique pour bien préserver en fait, l'organe. Ensuite, on a l'étape d'injection de la collagénase. Alors en fait, c'est une étape qui permet d'injecter une enzyme en fait, dans le canal pancréatique et une enzyme qui, lorsqu'elle va être chauffée à 37 degrés, va permettre de digérer en fait, les tissus, ce qui ensuite nous sera très favorable pour dissocier la partie endocrine de la partie exocrine et donc de libérer les îlots de Langerhans. Donc ça c'est la digestion en fait, c'est la digestion du pancréas donc, qui se fait à 37 degrés. Et une fois qu'on obtient ce mélange endocrine-exocrine donc digéré, l'idée c'est de purifier les îlots de Langerhans, donc de sortir les 1% dont parlait Oriane Villard tout à l'heure, les 1% du pancréas. Donc ça c'est l'étape de purification, donc ça se fait par des gradients de densité qui permettent de séparer la partie îlot du reste du pancréas. Et une fois qu'on a cette partie purifiée, il y a une mise en culture qui est faite, qui dure en général 24 à 48 ou 72 heures, ça dépend de la programmation de la greffe. Et le jour de greffe, donc, ces îlots sont mis dans une poche de transfert, en fait, et puis sont envoyés au centre de greffe pour transplantation.
Alors, ces premiers isolements d'îlots au laboratoire de thérapie cellulaire du diabète, vous les avez réalisés pour la première fois en 2011. Il aura fallu donc 12 ans pour arriver à cette première greffe. Pourquoi est-ce que ça a été si long, en fait?
Alors déjà, c'est une thérapie qui est quand même nouvelle, avec un processus qui est nouveau. Donc, il a fallu réaliser des pancréas. Donc, on est parti à partir de... on a commencé avec des pancréas scientifiques, donc ils nous sont quand même attribués par les coordinations hospitalières et donc avec un accord scientifique de la famille, donc pour mettre en place tout le processus.
Pancréas scientifique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait don de son pancréas pour la recherche,
c'est ça? Exactement, oui, c'est don, il y a une non-opposition scientifique. Alors, c'est pas la personne elle-même, du coup, c'est la famille qui est concerté puisque nous c'est sur des donneurs donc décédés. Donc ça a été la première chose. Et puis après, les autorisations ont été quand même longues à se mettre en place.
Oui, c'est autorisé depuis 2020, c'est ça?
Voilà, autorisé. Alors nous, on était autorisés en fait à isoler des îlots depuis 2015, mais l'autorisation routine, en fait, la mise en place en routine a eu lieu en 2020. Entre-temps, dans l'intervalle, il y a eu des essais cliniques voilà, qui ont eu lieu, qui ont permis de montrer les premiers résultats. Peut-être Ryan pourra en dire un mot. Et puis, on a aussi été victime de la période Covid, avec une bonne année à l'arrêt.
Alors, vous expliquez, pour revenir un peu sur la procédure, dans le communiqué, que les îlots, ils ont été greffés dans la veine porte. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on s'imagine qu'on va les mettre sur le pancréas, là où il y avait les îlots dysfonctionnels. En fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Comment vous avez procédé?
Alors, en effet, les îlots, ils sont en fait infusés, c'est-à-dire qu'on met une perfusion au niveau de la veine porte. La veine porte, c'est la veine qui alimente le foie. C'est une veine qui est en fait assez superficielle et un radiologue peut aller avec un cathéter ou bien un chirurgien peut aller très facilement accéder à cette veine porte, ce qui rend la procédure non-invasive qu'on appelle, c'est-à-dire avec peu de comorbidité, peu de complications. En fait, les îlots, ils vont aller dans le lit sanguin au niveau de la veine porte et ils vont aller rester dans le foie, ils vont aller faire leur sécrétion d'insuline au niveau du foie. Vous comprenez que ce n'est pas l'environnement idéal, parce que d'habitude, ils sont au niveau du pancréas. Néanmoins, on voit qu'ils permettent une régulation de l'insuline et une survie qui est acceptable et qui permet à la greffe d'être fonctionnelle.
Alors, j'allais justement vous demander quel était l'avantage de cette greffe d'îlot sur la greffe de pancréas entier. C'est ça, en fait, c'est moins invasif?
Exactement. Alors, c'est vraiment la greffe de pancréas entier. C'est une greffe qu'on procède aussi au CHU de Montpellier. C'est le professeur Panaro qui est en charge de cette greffe-là. C'est une greffe qui nécessite une expertise chirurgicale vraiment importante. Il y a peu de centres en France qui le font. On a la chance à Montpellier de pouvoir le faire. C'est une technique qui a certaines complications qu'on essaye au maximum d'éviter, mais qui a à peu près 30-40% de reprise chirurgicale sur des difficultés chirurgicales, d'anastomose chirurgicale. Et donc, il faut savoir que le patient, il faut qu'il soit préparé à éventuellement avoir des complications et des reprises chirurgicales. C'est néanmoins une procédure qui marche très bien et qui a des succès à long terme, non négligeables et supérieurs à la greffe d'îlot. La greffe d'îlot, son gros avantage, c'est qu'en fait, c'est la non-invasivité de la procédure. Un de ses avantages néanmoins à connaître par rapport à la greffe de pancréas, c'est qu'en fait, il faut souvent faire plusieurs greffes d'îlot pour arriver au même résultat, c'est-à-dire pour arriver à arrêter l'insuline chez nos patients. Et on est en fait amené à faire 2 à 3 greffes pour un même patient pour viser un résultat d'arrêt de l'insulinothérapie. Et dans une période où le don d'organes est difficile, vous comprendrez que c'est une des limites principales actuellement de la greffe. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'immunisation du patient, puisqu'on lui apporte 2 à 3 donneurs différents, et donc il peut s'immuniser contre ses greffons.
Et justement, c'est une question que j'allais vous poser. Julia Sabatier, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des îlots qui proviennent de patients décédés. Donc, en fait, il ne suffit pas d'un seul donneur pour aller soigner un seul patient. Vous devez avoir plusieurs patients décédés chez qui vous allez prélever le pancréas pour pouvoir soigner une seule personne, c'est ça?
Tout à fait. Comme l'a dit très bien expliqué Oriane, c'est un petit peu la limite aussi de la greffe d'îlot. Et puis, il y a autre chose, c'est que donc, la manip d'isolement, donc, qui est très longue et très complexe, en fait, montre un taux d'échec quand même de 2 sur 3. Donc, c'est-à-dire que nous, pour sortir un isolement qui pourra partir à la greffe, il nous faut au moins 2 pancréas, voire 3, pour avoir un résultat positif. Donc ça fait beaucoup d'isolement pour arriver aux 3 greffons chez un patient.
Alors, on sait que la difficulté dans le don d'organes, c'est le risque de rejet, donc on dispose de nombreux moyens aujourd'hui pour l'éviter, mais est-ce que dans le cas de cette greffe, on doit vérifier donc la compatibilité entre donneur et receveur? Et est-ce qu'il faut un traitement immunosuppresseur quand même après une greffe d'îlot?
Exactement, c'est la deuxième grande limite en fait de la greffe d'îlot qu'on peut, on a un nombre restreint de patients à qui on le propose, c'est qu'en fait, donc la compatibilité, c'est exactement sur la même chose que pour une greffe de rein, par exemple. Donc il faut que le groupe sanguin soit compatible et puis que le patient matche ce qu'on appelle avec le receveur, avec le donneur, pardon. Et au niveau du traitement immunosuppresseur, c'est exactement le même traitement immunosuppresseur que pour toute greffe d'organes. Et donc, en fait, c'est une des principales limites de la greffe, puisque qui dit immunosuppression à vie, ça induit le patient qui va avoir un risque infectieux augmenté, un risque aussi néoplasique, c'est-à-dire de développer des cancers supérieurs à la population générale. Et donc, en fait, dans le choix de proposer cette greffe à un patient, on met la balance bénéfice-risque entre un diabète instable avec une altération de la qualité de vie, des risques d'hypoglycémie sévère, versus un risque d'immunosuppression à vie et les conséquences qu'induit l'immunosuppression.
Et du coup, on comprend aussi qu'il aura plein de traitements immunosuppresseurs à prendre, mais vous dites aussi qu'à l'issue de l'intervention, le diabète du patient a été stabilisé. Est-ce que ça veut dire que l'insuline, il a pu s'en passer après ou pas?
Alors, le patient a eu une première infusion d'ILO, donc un premier greffon. Le diabète s'est stabilisé, c'est-à-dire que le patient ne faisait plus d'hypoglycémie. Néanmoins, il avait toujours de l'insuline, c'est-à-dire 4 injections par jour. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, un mois après, on l'a regreffé, ce patient, avec un deuxième don, avec un deuxième pancréas. Et il est insulino-indépendant depuis un mois, c'est-à-dire qu'il a pu arrêter toutes ses injections d'insuline avec un équilibre glycémique, comme vous et moi, si vous n'êtes pas diabétique.
Incroyable. Donc cette greffe donc, qui a eu lieu au CHU de Montpellier, donc à partir d'ILO, vous la pratiquiez déjà. Donc la grande nouveauté, c'est que vous les avez vous-même isolés. Julia, est-ce qu'il y a d'autres équipes qui parviennent à faire ça, à isoler des ILO?
Alors actuellement en France, on est 3 centres de production. Donc on partage avec donc, Lille, Paris et puis Montpellier. Et puis on travaille aussi donc, avec Genève en Suisse, voilà, qui d'ailleurs notre expertise vient de Genève, voilà, qui relaie les îlots en France via Lyon.
Et justement, vous parlez aussi du travail, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, de toute une chaîne hospitalière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différents acteurs au-delà de vous qui sont impliqués dans ce parcours? Peut-être si vous pouvez commencer, Julia.
Tout à fait. Alors les premiers acteurs, ça se passe donc malheureusement à l'hôpital. Donc c'est les coordinations du don d'organes qui font un travail avec la famille, voilà, pour qu'il y ait justement don d'organes. Une fois que ce travail est fait, en fait le pancréas est envoyé chez nous. Donc ça c'est régulé par l'Agence de la biomédecine, donc qui régule de façon nationale en fait la répartition des organes. Donc ça arrive au centre de production chez nous. Et les îlots donc, sont isolés à partir du pancréas. Et puis, pour un receveur déterminé, donc c'est là où on se met en contact donc, avec les cliniciens, donc Oriane, voilà, pour son patient.
Et peut-être que vous pouvez nous expliquer la suite du parcours, du coup, du côté clinique, Oriane.
Exactement, côté clinique, en fait, il y a plusieurs équipes qui sont impliquées. Donc tout d'abord, il y a l'éligibilité du patient. Donc ça implique l'équipe de diabétologie, mais aussi l'équipe de gastro-entérologie qui va vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à l'immunosuppression. L'équipe de radiologie et l'équipe chirurgicale qui va nous dire qu'on peut aller perfuser la veine porte et que le patient n'aura pas de complications. Donc ça, c'est toutes les étapes avant de préparation au patient. Et puis quand on a l'appel du laboratoire pour nous dire qu'il y a une greffe envisagée pour notre patient, et bien là, il y a toute une autre équipe qui doit se mettre en place en 48 heures pour préparer le patient. Donc il y a appelé le patient, déjà vérifier qu'il est disponible et qu'il n'a pas de contre-indication au moment voulu. Et puis après, donc, il y a le service d'endocrinologie où nous, on va prendre le patient en pré-greffe. Après, il va aller 2 jours dans les services de réanimation sur l'hôpital Saint-Éloi, dans l'équipe du professeur Jabert. La procédure se fait soit par voie radiologique avec l'équipe du professeur Guillou ou par voie chirurgicale avec le professeur Panaro. Et puis en post-greffe, il va revenir dans notre équipe de diabétologie et nous, on va avoir un suivi une fois par semaine du patient de façon très régulière pendant 3 mois à peu près. Et puis ensuite, on suit tous les patients pendant 3 mois de façon régulière. Il faut dire que nos patients, ils viennent du CHU de Montpellier, mais en fait, comme Julia l'a dit, il n'y a que 3 centres d'isolement en France. Et donc en fait, ils viennent presque de toute la partie sud de France, puisque sinon c'est Paris et Lille. Et vous comprenez que les patients, ce n'est pas très pratique géographiquement.
On sait à peu près estimer le nombre de candidats à cette greffe en France?
Alors en France, ce serait difficile. Je peux vous dire qu'à Montpellier, on a 7 patients qui sont inscrits en liste et qui attendent cette greffe d'ILO. Donc il y en a plus que 6 maintenant, puisqu'on a réussi le premier succès.
Et on s'est estimé, leur temps d'attente à ces patients qui sont sur la liste, le numéro 6 par exemple?
Alors c'est assez difficile à vous répondre, parce qu'il y a des histoires de compatibilité. Donc ça dépend quel est votre groupe sanguin, vous avez plus ou moins de chance d'avoir un pancréas qui vous est attribué. Et puis l'activité finalement elle est assez nouvelle, puisque c'est depuis 2020 qu'on l'a fait en routine. Nous le premier patient qu'on a inscrit c'était en septembre 2022 et là on a effectué 3 greffes au total, donc il y a quand même un certain délai d'attente pour ces patients.
Mais on imagine que ça doit représenter un sacré espoir. Alors un grand merci à vous, on était très contentes de vous recevoir.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci également pour l'invitation. Voilà, on souhaitait juste terminer sur une note positive, en fait. Enfin, positive. On voulait préciser que cette thérapie innovante, en fait, n'existerait pas sans le don d'organes. Voilà, donc c'était pour remercier déjà les familles et puis toutes les équipes des coordinations hospitalières qui font ce travail pour que le don d'organes soit possible et donc que ces thérapies-là puissent exister.
Et c'est important de le dire. Un grand merci à vous.
Merci.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et cette semaine, Aline, tu nous emmènes donc à Hydroscience, c'est bien ça ?
Aujourd'hui, nous allons à la faculté de pharmacie, où le bâtiment Hydropolis héberge le plateau technique pour la recherche AETE ISO, ce qui veut dire analyse des éléments en trace dans l'environnement et isotope. Les analyses qui sont menées sur cette plateforme, où œuvrent 6 personnes, sont utilisées pour la recherche, notamment dans les secteurs de l'eau, l'environnement, la géologie, les matériaux, la biosanté, l'écologie, l'agronomie et même l'archéologie. Et on suit Rémi Frédier et Olivier Bruguier qui nous font la visite.
Bonjour, je suis Rémi Frédier, donc agent rattaché au laboratoire Hydrosciences Montpellier et agent CNRS, ingénieur de recherche CNRS. Du coup, là, on est sur la plateforme AETISO, donc de l'OSIORM, et nous sommes...
Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire AETISO, s'il vous plaît ?
Donc AETISO pour analyse des éléments de traces dans l'environnement et isotopes. Donc nous sommes ici sur la partie analyse élémentaire, donc nous avons 2 salles, une salle de préparation pour préparer les échantillons et une salle pour réaliser les analyses.
Alors les échantillons dont vous parlez, de quoi est-ce qu'il va s'agir ?
Alors il va s'agir essentiellement donc, soit de roches, soit de sédiments, soit de tout type de matériaux solides, ça peut être des végétaux, ça peut être des organismes vivants, des chairs de poisson ou autres, ça peut être des eaux également, des eaux douces, des eaux de mer, qu'on va pouvoir analyser ici et préparer dans cette salle avant de l'analyser à côté.
Et alors là, on est dans la salle de préparation, est-ce que vous pouvez me montrer comment on procède pour préparer un échantillon ?
Alors, il y a 2 types. Si on veut préparer une roche, par exemple, on va broyer cette roche, la réduire en fine poudre, à laquelle on va rajouter, par exemple, un fondant, du métaborate de lithium, pour ensuite la mettre dans un four, un four qui va monter à peu près à 1000 degrés, et on va faire fondre la roche, on va obtenir un verre, et ce verre, on va le dissoudre, le diluer, et ensuite, on pourra faire l'analyse sur les spectromètres de masse.
Et vous parlez d'analyse, on a parlé d'éléments de traces, qu'est-ce qu'on cherche dans ces échantillons ?
Alors on va chercher à la fois des éléments qui sont des éléments majeurs, on dit les constituants majeurs des roches, des sédiments ou autres, et on va chercher aussi des éléments de traces, c'est-à-dire des éléments qui sont très peu concentrés, et les instruments qu'on possède ici sur la plateforme nous permettent de descendre à des concentrations très très basses dans les échantillons. Oui.
Est-ce qu'au niveau de ce qu'on voit là, on est quand même dans une grande salle, il y a du bruit, il y a des salles, enfin des endroits pour maniper. Combien y a de personnes qui peuvent travailler dans cette salle ?
Alors dans cette salle, on peut être environ 3-4 personnes à travailler. On a des hôtes à fûts laminaires et des hôtes d'extraction pour pouvoir préparer nos échantillons. Et ensuite, on a des analyseurs ou des instruments pour minéraliser les échantillons, donc des micro-ondes ou des fusionneuses, comme je vous disais tout à l'heure, donc fusionneuses perleuses. Et on a également des systèmes de production d'eau ultra pure pour pouvoir diluer nos échantillons et ne pas contaminer les échantillons lorsqu'on les prépare.
Alors, moi, je m'appelle Olivier Bruguier, donc je suis ingénieur de recherche au CNRS. J'appartiens à Géosciences Montpellier et je suis avec Rémi Frédier, donc un des responsables techniques de la plateforme AETE ISO de l'OSIORM.
Et vous allez nous faire visiter la partie analyse, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait. On va voir la salle des spectromètres de masse à source plasma. Donc, on dispose de plusieurs appareils de ce type là, dans ces salles dans lesquelles on va rentrer.
Eh bien, je vous suis.
La pièce. Oui, donc nous voilà donc dans la pièce. Vous voyez que le volume sonore a un peu augmenté. On a la pièce donc qui comprend plusieurs spectromètres de masse.
Qu'est-ce que c'est qu'un spectromètre de masse ?
Alors c'est un appareil qui. Ce sont des appareils qui vont nous servir à mesurer les concentrations chimiques des éléments qui sont contenus dans les échantillons qu'on nous donne à analyser. Et ces spectromètres-là sont des spectromètres à source plasma, donc qui fonctionnent avec un plasma d'argon à très très haute température, plus de 8000 degrés, et ça nous permet d'analyser la plupart des éléments de la classification périodique, la plupart des éléments chimiques de la classification périodique, en allant à des niveaux de détection qui sont très très bas, puisqu'on peut mesurer des éléments qui sont contenus dans les échantillons jusqu'à des teneurs qui sont de l'ordre de 1 nanogramme ou 1 picogramme, 10-12 grammes par gramme d'échantillon. On est capable par exemple de détecter, c'est une image, hein, mais un Européen en Chine, un pour un milliard.
Alors, peut-être une dernière question, peut-être pour vous, Olivier Bruguier. En termes de recherche, les résultats que vous obtenez ici de vos analyses, ils sont exploités comment ?
Alors, la plupart du temps, ces analyses sont exploitées soit dans des congrès internationaux ou internationaux, soit, effectivement, c'est le but ultime, hein, dans des publications. Donc, les chercheurs, Parce que notre travail, c'est d'être en soutien de la recherche qui est faite dans les laboratoires. Les chercheurs utilisent ces résultats pour effectuer des publications. Et ça permet d'avancer dans beaucoup de domaines. Je vous ai dit qu'on travaille sur beaucoup, dans beaucoup de domaines. Et tous ces domaines-là ont besoin, tous ceux en tout cas qui ont besoin de caractérisation chimique, passent par ces machines et ensuite c'est exploité via des publications.
Alors là, est-ce que vous pouvez me dire où on est ?
Alors là, on est dans une autre pièce. C'est un laboratoire, donc là aussi, qui contient un spectromètre de masse, mais qui en plus, une particularité, c'est qu'on a un système d'ablation laser, un laser, en fait, qui est capable d'analyser les échantillons sans aucune préparation chimique préalable. Tout à l'heure, ce que vous avez vu nécessitait une préparation chimique avec l'utilisation d'acides, qui peuvent être parfois dangereux, voire polluants pour l'échantillon, et difficiles à recycler ensuite. Ici, on va pouvoir analyser directement l'échantillon grâce à un faisceau laser qui fait jusqu'à 50 microns de diamètre. Et on va pouvoir analyser dans l'échantillon des zones particulières, spécifiques, qu'on va caractériser à la fois d'un point de vue chimique, mais également d'un point de vue isotopique. Et donc ça nous permet de retrouver l'ADN, en quelque sorte, des échantillons qu'on nous demande d'analyser.
Et on passe maintenant à notre invité des trois dernières minutes. Et cette semaine, nous recevons Caroline Blanvillain, directrice adjointe de la faculté d'éducation et maître de conférences en arts plastiques. Bonjour.
Bonjour.
Et merci. Bienvenue dans Allume la science.
Merci à vous.
Alors donc, vous venez nous parler d'une exposition visible donc à la faculté d'éducation. Elle s'appelle Récits d'horizon. On peut la voir donc jusqu'au 8 juin. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition, je me répète?
Eh bien, les travaux de l'artiste plasticienne contemporaine Elena Sala, qui présente non seulement ses travaux, mais ses travaux en dialogue avec les travaux des élèves de maternelle de l'école Florian. Donc, très concrètement, vous allez voir au sol des terres qui ont été modelées par les enfants dans la cour, de même sur les murs. Et puis, un film également qui a été réalisé par Elena Sala lors d'un déplacement en Guyane. Et enfin, une toute nouvelle œuvre d'Elena Sala qui va vous permettre, avec un système de vapeur d'eau, de voir disparaître et apparaître une image.
Alors, cette artiste qui est sétoise, je crois, c'est ça, Elena Sala?
Tout
oui.
à fait.
Elle a été reçue dans le cadre d'une résidence croisée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Alors, résidence croisée, auquel on a ajouté des S entre parenthèses, parce que c'est une articulation entre une résidence qui avait lieu à la faculté d'éducation depuis 2016, à l'automne. Pendant à peu près 3 mois, nous recevions un artiste. Et en parallèle, l'école maternelle Florian de Montpellier accueillait... elle aussi, au mois de mars, un artiste. Alors, sous l'impulsion de notre partenaire, le MOCO, on a décidé d'accueillir un même artiste sur toute l'année. Donc, l'artiste, cette résidence croisée s'articule en 4 temps. Une résidence création recherche donc, à la faculté d'éducation à l'automne. Ensuite, au printemps, une résidence à l'école maternelle. En mois de mai-juin, cette exposition dont nous venons de parler. Et enfin, une quatrième phase qui aura lieu en octobre à la rentrée avec une table ronde à l'auditorium du MOCO qui rendra compte de cette résidence d'artiste.
Alors, qu'est-ce que ça apporte sur le plan pédagogique à vos étudiants et étudiantes ces résidences croisées ?
Alors, à la faculté d'éducation, on forme des futurs enseignants, donc dans le premier et deuxième degré. On forme aussi des médiateurs, des animateurs, donc des médiateurs culturels. Donc, on a cette proximité avec l'éducation et la culture. Et donc, le fait d'avoir une artiste en résidence dans le lieu, ça permet de proposer des ateliers artistiques en dehors des formations à nos étudiants, mais aussi à nos personnels. C'est-à-dire que c'est ouvert à l'ensemble des personnels. Ça permet des ateliers dans la formation, toute la question de l'articulation de la place de la culture à l'école, notamment. Et puis, c'est l'occasion de voir, j'ai envie de dire, en vrai, en direct, d'échanger avec un artiste et de voir comment son processus de création, puisque elle est au moins 3 mois dans l'espace culturel à créer son œuvre in situ. Et on a le plaisir de la revoir donc au mois de juin et pour l'exposition croisée.
Et donc, on rappelle, alors elle est visible jusqu'au 8 juin et c'est sur le campus de la faculté d'éducation, donc.
Oui, c'est sur, entre 9h et 18h. Et voilà, c'est en accès libre et c'est ouvert au grand public.
Un grand merci à vous, Caroline Blanvillain. Au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetant pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.